Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview avec le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur le président, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier,
Oui,
RFI. Monsieur le
Christophe.
président, bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur le président, nous sommes tout proches
Oui,
d'une élection présidentielle
c'est
à
ça.
laquelle vous ne deviez pas participer.
Tout à fait.
Le 5 mars, vous avez annoncé que vous n'alliez pas briguer le troisième mandat, mais après le décès tragique de votre dauphin Madougon Coulibaly, vous faites volte-face le 6 août. Vous décidez d'y
Non,
aller.
pas volte-face. C'est ça.
Est-ce que,
Oui.
en prenant cette décision,
Oui.
on verra comment vous la qualifiez,
Oui.
vous ne ternissez pas votre image
Oui,
et
oui.
vous ne rentrez pas dans la catégorie des chefs
Oui,
d'État
oui.
qui jouent un petit peu d'artifice pour se
Oui.
maintenir au pouvoir? On le
Oui.
voit en ce moment avec toute la controverse
Oui.
autour d'Alpha Condé en Guinée.
Mais vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et le décès tragique du Premier ministre Amadou Gon, Coulibaly, nous a tous affectés. Clairement, moi, je n'avais pas prévu d'être candidat. Je crois que c'est sûr, je l'ai annoncé, c'est connu. Évidemment, il est décédé à 3 semaines du dépôt des candidatures. Mon parti m'a demandé de faire le sacrifice d'être candidat, ce que j'ai accepté pour mon parti, mais pour surtout mon pays. Pour mon pays, pour la majorité des Ivoiriens, puisque mon parti tout de même est majoritaire à l'Assemblée, au Sénat, au niveau des municipalités, c'est les 3/4 des Ivoiriens, donc qui considéraient que c'était la voie de la stabilité, la voie donc de la sécurité de la Côte d'Ivoire, la sécurité régionale. Je le fais par devoir patriotique, croyez-moi. J'avais déjà pris un certain nombre de dispositions pour faire autre chose. Et là, je le fais, disons, par obligation. Et je suis, bien évidemment, contraint à bien faire ce qui m'a été demandé. Mais le pays avait besoin de cette candidature. Et je considère que mon aura personnelle est sacrifié dans l'intérêt de mon pays.
Alors, pour l'opposition,
Oui.
ce n'est pas par devoir que vous le faites,
Oui.
mais par mégalomanie,
Voilà.
par syndrome de
Oui.
l'homme providentiel.
Mais je pense que personne ne peut dire que je suis un mégalomane. Ça, c'est
Ils
bien
le
connu.
disent.
Ah bon, ils le disent, c'est leur opinion. Mais fondamentalement, ce qui m'importe, c'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. Et je considère que cette décision est bonne. Si c'était Amadou Gon Coulibaly, ils se font des illusions. Amadou les aurait battus. C'était clair. C'est le parti qui fait l'élection. Ce n'est pas la personne. Et le parti était rassemblé autour d'Amadou Gon Coulibaly. Évidemment, à partir du moment où c'est moi, pour eux, la défaite est certaine. Et par conséquent, c'est peut-être, je sais pas, peut-être c'est la raison pour laquelle ils décident de ne pas aller aux élections, mais je les laisse avec leur opinion. Ce qui m'importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la stabilité de mon pays et c'est le bien-être de mes concitoyens.
Monsieur le Président, depuis le 6 août, donc depuis que vous avez annoncé votre candidature, on déplore plusieurs dizaines de morts à
Malheureusement.
travers le pays, malheureusement.
Oui.
Aujourd'hui, vous affirmez que le pic de violence est passé, mais l'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne ont publiquement exprimé leur inquiétude. Il y a encore eu 16 morts la semaine dernière à Dabou, c'est à 50 km d'ici.
Oui.
Est-ce que vous craignez un remake des grandes violences de 2010-2011 dans cette ville même d'Abidjan?
Non, point du tout. D'abord, malheureusement, à Dabou, il y a eu 16 morts. Donc nous en sommes à 30 morts aujourd'hui. Mais tout cela, comment ça s'est produit? Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui ont tiré sur les gens. C'est des conflits communautaires qui ont été suscités par l'opposition. Alors moi, je déplore ces morts et je présente mes condoléances aux familles donc des décédés. Mais fondamentalement, il faut que ça s'arrête. Je suis confiant que maintenant que nous avons déployé 35 000 forces de défense et de sécurité, que la situation va s'apaiser. Les forces de l'ordre sont républicaines aujourd'hui, contrairement à 2010. Donc je n'ai pas je ne vois pas de danger par rapport à une évolution dramatique de la situation. Je demande seulement aux opposants de respecter la vie des autres. Ce n'est pas nécessaire. L'élection ne doit pas être une bataille à mort. Ce n'est pas nécessaire. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire, avec une alternance après un certain temps.
Monsieur le Président, pour en revenir au scrutin, une clarification. Vous avez réduit le nombre de lieux desquels on peut retirer les cartes d'électeurs. Est-ce que vous envisagez de faire la même chose jour du vote, par crainte de violence ou d'autres ?
Vous savez, il y a à peu près 10 800 lieux de vote. Et dans chaque lieu, il y a plusieurs bureaux de vote. Il y a à peu près 22 300 et quelques bureaux de vote. La CEI a pris la décision, compte tenu d'un certain nombre de problèmes, de réduire temporairement le nombre de lieux de vote. Mais ce n'est pas de beaucoup. Ils peuvent faire la même chose le jour de l'élection. Mais en réalité, ces 10 000 lieux de vote permettront aux Ivoiriens de voter. Si maintenant la CEI estime qu'il faut les réduire pour des raisons sécuritaires, je pense que ce sera très peu de choses. Et que de toute façon, les cartes d'électeurs peuvent être retirées le jour de l'élection. Bon, c'est mieux que les gens aient leurs cartes d'électeurs, ça donne une indication de leur volonté de voter le jour de l'élection. Mais s'ils ne retirent pas leur carte, ils peuvent toujours la retirer le jour de l'élection. Voilà.
Et justement, hier, le président de la commission électorale a reconnu qu'il n'y avait que 41% citoyens qui avaient retiré leur carte d'électeur.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas la preuve que l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition est suivi par un certain nombre d'Ivoiriens ?
Ah oui, mais certainement que certains l'ont suivi. Je me souviens, en 2015, on m'a dit que le taux était d'environ 50-55%. Bon, si aujourd'hui nous sommes à 41%, bon, c'est vrai qu'il y a une évolution qui est négative, mais aussi, tout dépend des circonstances. En 2015, nous étions alliés avec le PDCI et nous n'avions pas de problème de ce genre de désobéissance civile. Si c'est ce qu'ils veulent par rapport au résultat de la désobéissance civile, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ben, je suis désolé de constater qu'on empêche des citoyens d'exercer leurs droits. Maintenant, on verra le 31, combien d'Ivoiriens vont voter.
Alors, justement, jeudi dernier, vous avez fait des concessions un petit peu au niveau de la commission électorale. Elles ont été repoussées par vos deux principaux adversaires. Ceux-ci réclament une facilitation internationale. Est-ce que vous l'envisagez encore ? Et est-ce que vous pourriez envisager un report du scrutin ?
Mais vous savez, moi j'ai toujours la constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la constitution est là. La constitution dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du président de la République. Même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. Alors, tout de même, ce sont des anciens responsables de ce pays, un ancien président de la République, un ancien Premier ministre. Nous avons notre Constitution qui fixe la date des élections, comme aux États-Unis, le premier mardi du mois de novembre, comme au Ghana, le 7 décembre. À cause des tergiversations du passé, nous avons inscrit cela dans la Constitution. Moi, je ne veux pas être un parjure, je ne peux pas changer la date. Et ils le savent, cette Constitution date du 8 novembre 2016.
Donc c'est définitif.
Donc depuis le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Et depuis cette date, nous avons travaillé ensemble à mettre toutes les structures en place. Un dialogue politique a permis de mettre en place la commission électorale indépendante en 2019. Ensuite, un dialogue politique a permis de mettre en place le code électoral. Alors, pourquoi voulez-vous la facilitation ? Pourquoi faire ? Nous ne sommes pas en transition en Côte d'Ivoire. Moi, je suis démocratiquement élu. Et le président Bédia avait soutenu ma candidature en 2015. Ne serait-ce que pour cela, Pourquoi voudrait-on d'une transition? Je suis président démocratiquement élu et j'envisage d'aller jusqu'au terme de mon mandat et ces élections auront lieu comme l'exige la Constitution le 31 octobre, qui est un samedi, le dernier samedi du mois d'octobre.
Vous parlez du président Bédier. Depuis plusieurs jours, on parle d'un éventuel tête-à-tête entre M. Bédier et vous-même. Visiblement, il y a un blocage. D'où vient-il? Est-ce qu'une rencontre est encore possible d'ici samedi?
M. Boisbouvier, moi, j'ai marqué ma disponibilité. Je l'ai marqué avec la mission de la CEDEAO, Mme Shirley Botchwey. Le Premier ministre l'a confirmé à l'occasion de la rencontre qu'il a eue le 21 octobre avec la délégation, les partis politiques qui étaient là. Je l'ai confirmé au président Nana Akufo-Addo encore avant-hier. Mais si le président Bédier ne souhaite pas cette rencontre, peut-être qu'on la fera à une autre date. C'est mon aîné, vous savez, je ne vais pas le bousculer.
Donc pas de rencontre avant samedi?
Ah non, ce n'est pas de moi. J'ai dit, je marque ma disponibilité de le rencontrer. Il a voulu un lieu neutre. J'ai dit, très bien, dans un hôtel s'il le souhaite. Et j'ai demandé au président du Ghana, qui est le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, de voir s'il était d'accord pour qu'on se rencontre, même dans un hôtel, et à l'heure et le jour qu'il voudra.
Mais pour l'instant, rien n'est prévu?
Pas à ma connaissance.
Le fait que M. Affine Guessant et M. Bédier n'aient pas encore formellement retiré leur candidature, est-ce que cela laisse la porte ouverte à un accord de dernière minute?
Mais posez-leur la question. Ils sont candidats, de toute façon, leurs noms vont figurer sur le bulletin de vote. Donc, ils auront des gens qui vont voter pour eux. Ils sont candidats.
Vous avez accusé l'ancien président Bédier, dans une interview avec nos confrères du Monde, de distribuer de l'argent aux casseurs. Vous l'avez aussi accusé de faire ressurgir les vieux démons de l'ivoirité. Mais ça pose une question quand même. Ça a été votre allié politique de 2005 à 2018.
Oui.
J'imagine que vous aviez déjà ces soupçons sur l'ivoirité, sur peut-être ces manigances. Vous ne vous en êtes jamais aperçu?
Aujourd'hui, ce n'est pas de la surenchère électorale. Nous avions une très bonne collaboration. Et vous savez, le président Bédier est mon aîné. Pendant les 7 ans d'alliance que nous avions, je me suis toujours déplacé pour aller le voir, bien qu'étant le président de la République. J'ai même pris souvent l'hélicoptère pour aller lui rendre visite à Daoukro. En moyenne, je dirais 4-5 fois dans l'année. Je l'ai consulté sur toutes les grandes décisions, y compris cette constitution. Alors donc, maintenant, apparemment, il a changé d'avis. Mais je pense que vous devriez lui poser la question.
Mais il paye des casseurs, enfin, c'est des accusations de crimes graves quand même.
Mais vous savez, ces dossiers sont entre les mains de la justice. Je préfère ne pas dire plus que ce que j'ai dit jusqu'à présent.
Il devra y faire face, donc.
Ah, mais tout le monde doit faire face à la justice.
Revenons aux violences de Dabou qui ont fait 16 morts la semaine dernière. Vous affirmez dans le journal du dimanche que c'est Guillaume Soro qui est à la manœuvre. Et plus largement, vous accusez votre ancien Premier ministre de vouloir susciter une rébellion dans l'armée pour vous renverser. Mais alors, Guillaume Soro, il nie farouchement. Il vous demande si vous avez des preuves contre lui. Il dit que vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez?
Mais bien sûr. Il sait bien que j'ai les preuves. Et les preuves sont entre les mains de la justice.
Est-ce que vous pouvez
prenons
nous en dire
le
plus?
Temps de la justice, s'il vous plaît.
Mais tout de même.
Ce sont des dossiers qui sont entre les mains de la justice. J'ai dit ce que je devais dire. Je n'en dirai pas plus. Nous avons les élections dans 3 ou 4 jours. Ultérieurement, la justice fera son travail.
Est-il vrai, tout de même, Monsieur le Président, que Guillaume Soro aurait cherché à actionner des membres de votre garde présidentielle pour éventuellement vous renverser?
Mais je ne ferai pas de commentaires sur tout cela. La justice donnera tous les éléments le moment venu.
Mais quand vous dites qu'il mérite la prison à vie, on parle de crimes graves, là, on ne parle pas de petites choses.
Mais vous savez, j'ai donné mon opinion, mais je ne suis pas juge. En tant que citoyen et lisant la Constitution, quand on pose un certain nombre d'actes, il y a des conséquences, c'est tout ce que je dis. Mais je ne suis pas le procureur ni le ministre de la Justice. Mais la justice fera son travail en temps voulu, avec tous ceux qui commettent des actes criminels.
Alors, venons-en à Laurent Gbagbo.
Et il n'est pas le seul.
Venons-en à Laurent Gbagbo. Il a donc été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il attend son verdict d'appel à Bruxelles.
Oui.
Alors, d'après la CPI, il peut rentrer sans attendre cet appel en Côte d'Ivoire si vous donnez votre accord. Alors, lui affirme avoir fait des demandes de passeport, de laisser-passer.
Oui, tout ça est en cours de règlement, vous savez.
Non, mais il dit que vous avez refusé de lui accorder.
Non, ce n'est pas vrai.
Ah bon?
Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales.
Et pourquoi ne pas lui donner un passeport?
Non. Le passeport est en cours de délivrance, à ma connaissance, donc ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je lui refuserais son passeport?
Il dit qu'on lui a refusé.
Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Ceci étant, c'est un jugement en première instance. Mais le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans là-bas. Je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont examinées d'un commun accord. C'est ce que je dis.
Donc
ceci montre ma volonté de le faire rentrer. Mais, et les victimes, il y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. J'ai des victimes ici qui ont introduit un procès à son encontre. Moi, j'ai déjà défié la CPI en refusant d'envoyer Simone Gbagbo. Mais pour que le cas de Laurent Gbagbo, il faut que tout ça soit organisé de manière convenable.
Donc il y a des discussions, évidemment.
Il n'y a
avec
pas
lui.
De discussions à mon niveau, mais il y a des intentions en ce qui me concerne.
Il y a des intermédiaires, on a parlé de son fils.
Il n'y a
fils,
pas d'intermédiaire, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun intermédiaire.
Mais. Alors, vous avez annoncé dans vos interviews récentes que vous alliez prendre une mesure exceptionnelle, entre guillemets, pour permettre son retour.
Je souhaite qu'il rentre après la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en temps opportun.
Mais
je n'en dirai pas plus.
Je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas une amnestie, ce sera une grâce.
Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus.
Mais vous n'excluez pas la grâce.
Je n'en dirai pas plus.
Venons-en à votre bilan, Monsieur le Président.
Oui, ça, je suis content, enfin, qu'on parle de mon bilan et de l'avenir.
Cette élection,
c'est ce qui intéresse les Ivoiriens.
Alors, justement,
Christophe.
les chiffres économiques sont bons, avec un taux de pauvreté qui, selon les statistiques de la Côte d'Ivoire...
de la Banque mondiale. J'espère que c'est les chiffres de la Banque mondiale, parce qu'on peut toujours mettre en cause les statistiques de la Côte d'Ivoire,
c'est vrai.
Les statistiques de la Banque mondiale.
A été réduit en 10 ans ce taux de pauvreté de 51 à 37%.
Ouais.
Mais d'après justement la Banque mondiale, comme la population ivoirienne a augmenté dans le même temps, de 20 à 25 millions d'habitants, eh bien... En réalité, le nombre de pauvres n'a pas vraiment baissé, 10 millions contre 11 millions il y a 10 ans.
Oui.
Est-ce que cette croissance ne reste pas très
inégalitaire? C'est leur interprétation. Leur interprétation. Ce que moi je peux vous dire, c'est que le revenu par tête d'habitant a doublé en Côte d'Ivoire pendant cette période. Donc on ne peut pas dire que le taux de pauvreté n'a pas baissé, puisque le revenu de l'Ivoirien moyen ou de la population moyenne a doublé, malgré le taux d'immigration qui est de 25%. Alors, nous continuerons sur cette lancée. Mon ambition, c'est de faire en sorte que dans les 10 ans, on puisse doubler à nouveau le revenu par tête d'habitant. À ce moment-là, nous serons à 5 000 $, qui est le revenu constaté dans les pays émergents. Aujourd'hui, nous sommes à 2 250. Mais donc, je suis très confiant sur l'avenir de la Côte d'Ivoire.
Mais ce que dit le socialiste Affine Guessant, par exemple, c'est que les inégalités restent très profondes.
Mais l'inégalité a baissé, puisque le taux de pauvreté a baissé. Vous voyez, et de leur temps, l'inégalité était comment? Puisque le taux de pauvreté était de 55%. Et je ne voudrais pas rentrer dans la polémique de certains qui ont géré ce pays, et on en connaît les résultats. J'ai mon bilan. Et les uns et les autres le savent. La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors, je suis très fier de mon bilan. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de pauvreté a baissé, les services sociaux se sont améliorés, les infrastructures se sont améliorées, et ainsi de suite. C'est ce que je compte continuer avec une équipe de jeunes pour que nous soyons encore plus dynamiques que par le passé.
Alors, si samedi prochain, il n'y a donc, comme ça semble être le cas, pas de poids lourd en face de vous.
Mais qu'est-ce que c'est un poids lourd ?
Disons, un ancien président, un ancien premier ministre.
Ah bon, d'accord. Vous savez, il y en a beaucoup dans ce pays.
Il n'y a pas beaucoup de candidats,
vous
il y en a quatre.
Vous savez qu'à Fingesson, il n'y a que 3 députés à l'Assemblée nationale. Il n'a même pas pu constituer un groupe parlementaire.
Il n'y a que...
Le président Bédier, effectivement, est un poids lourd parce que le PDCI, qui était allié, qui était mon allié au sein du RHDP, a un groupe parlementaire à l'Assemblée.
Voilà. Donc si...
Et je signale que Kakabé, que tout le monde critique, a eu pratiquement 4% du vote en 2015. Donc ce n'est pas un candidat qui n'est pas significatif.
Mais vous savez bien que si vous êtes seul face à Kakabé samedi prochain, on va dire que vous avez été mal élu. Parce que les principaux candidats...
Ah bon ? Pourquoi je serais mal élu ?
Quelle est la... Ça ne vous dérange pas, la perception ?
À point du tout. Aux États-Unis, il y a 2 candidats.
Oui, mais c'est
un républicain et un démocrate. Mais alors, vous savez, c'est ça mon ambition.
Vous aimeriez ça ici ?
Non, c'est ça mon ambition, qu'au fil du temps, nous ayons 2 candidats, 3 candidats maximum, pour que les candidats puissent présenter leur bilan et leur projet pour les Ivoiriens, plutôt que de rentrer dans des candidatures insignifiantes qui n'apportent rien du tout à la population, tout simplement pour pouvoir mettre sur sa carte de crédit, sa carte de visite qu'on a été ancien candidat à la présidence de la République. Donc moi, ça ne me dérange pas parce que Kakabé est un candidat qui a déjà boycotté le PDCI en 2015 pour être candidat indépendant, alors que le président Bédier était avec moi dans le RHDP.
Si vous êtes élu samedi prochain...
Je préfère ça plutôt que mal élu.
Alors, si vous êtes élu samedi prochain, quel geste comptez-vous faire peut-être pour essayer de décrisper la tension politique, gouvernement de l'Union nationale,
mon souhait, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Et je considère que j'ai montré suffisamment d'ouverture pour cela. D'ailleurs, les propositions faites au niveau de la Commission électorale indépendante nous ont été demandées par l'opposition via la CEDEAO. Nous avons accepté. Il y aura le dialogue politique continuera. Et je considère qu'il y a des personnes de qualité dans les partis dont les responsables ne veulent pas venir aux élections, que ce soit le PDCI ou le FPI. Donc moi, je ferai appel à toutes les personnes compétentes dans la limite des possibilités de mon parti. Voyez-vous, mon parti aujourd'hui, nous avons des députés, des ministres originaires de 27 régions sur 31. C'est la première fois que ça se passe en Côte d'Ivoire. Les gouvernements qui m'ont précédé, les ministres étaient localisés dans une dizaine de régions. Donc c'est déjà, j'ai fait une grande ouverture au sein du RHDP. Le RHDP est un parti qui est implanté dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, les 31 régions et les 2 districts. Et je continuerai de renforcer cette union et cette cohésion nationale.
Alors, vous avez parlé aussi d'une éventuelle nouvelle révision de la Constitution et notamment de rétablir la limite d'âge pour les candidatures.
Oui, vous savez, ce sont des perspectives. Ça ne veut pas dire que c'est le mois prochain ou l'année prochaine. Non. Mais à partir du moment où nous n'arrivons pas à changer cette classe politique, je crois qu'il y a une demande forte au niveau de la jeunesse que nous puissions limiter l'âge.
À quel âge ? 70, 75.
Non, mais ce sera au Parlement. Les gens oublient que la Constitution est adoptée par le Parlement. Moi, je ne fais que des consultations. Et ensuite, je propose un projet au gouvernement qui l'adopte et que je présente à l'Assemblée nationale, où les partis sont représentés. Si les partis politiques qui y sont d'accord avec moi qu'il faut qu'on touche l'âge limite pour qu'on règle ce problème des grands présidents, guillemets, ou des présidents de l'indépendance, mais moi je serais d'accord, puisque j'avais déjà décidé de ne pas être candidat. Ça ne m'affecte pas de ne plus être candidat.
Donc vous seriez d'accord pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Conan-Bédier et vous, ne seriez candidat.
Moi, j'ai des idées sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens.
Et votre idée, c'est ça, c'est que...
Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement.
Alors, pour ne pas ternir votre image sur la scène internationale, vous dites en effet que vous souhaitez partir dès que vous le pourrez. Mais avant, vous dites « je veux trouver un dauphin consensuel ». Est-ce que ça veut dire que, pour vous, votre actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, n'est pas ce choix
naturel ?
Ah non,
Ahmed est un excellent Premier ministre.
Mais il n'est peut-être pas votre dauphin naturel ?
Non, non, c'est un excellent Premier ministre. Oui. Mais souvenez-vous qu'Amadou Gon Coulibaly avait été Premier ministre pendant 3 ans et demi, qu'il était le président du directoire du RHDP, et c'est une évolution. Et Ahmed fait du très bon travail, et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas parmi les compétiteurs.
Mais ce n'est pas le seul. Il peut y avoir d'autres compétiteurs.
Non, mais écoutez, je ne peux pas, je ne suis pas encore élu, cher Christophe. Comment voulez-vous que j'adresse ma succession ?
On pense évidemment à un grand banquier, Tidjane Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs.
Je crois qu'il est du PDCI. Hein.
Oui, mais...
Ah oui, moi, je vais choisir quelqu'un dans mon RHDP. Et ça dépend de mon équipe, vous savez, je ne suis pas, moi, contrairement à ce que mon ami parlait de dictateur, je ne suis pas un dictateur, moi, j'irai au niveau de mon parti. Nous ferons donc un congrès, nous aurons donc... appelle à candidature et puis bon, ben, le parti choisira.
Et ça veut dire qu'en fait, votre dauphin sera dans le RHDP. Il ne peut pas être...
Ah oui, mais écoutez, comment voulez-vous que j'aille prendre un dauphin en dehors du RHDP ? Ce n'est pas imaginable.
Et est-ce que ça veut dire que vous comptez en effet ne pas terminer votre mandat et partir avant la fin ?
Non, mais écoutez, le temps nous dira. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays, à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens, avec une équipe de jeunes, et elle est constituée, mais il faut trouver un leader qui soit accepté par la majorité. Amadou Gon l'était. Maintenant, je travaillerai à trouver un jeune qui soit accepté par la majorité.
Avant 2025.
Et à partir de là. Mais le plus tôt possible en ce qui me concerne.
Mais sûrement avant 2025.
Je ne dis pas sûrement, je dis le plus tôt possible.
C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025.
Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème.
Je veux en venir rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, aux questions de sécurité.
Oui.
Il y a eu l'attentat de Grand Bassam en 2016. Il y a eu une attaque contre un poste militaire à la frontière burkinabé au mois de juin. Donc la Côte d'Ivoire semble être dans la ligne de mire des djihadistes. Or, il y a 3 semaines, les cerveaux présumés de l'attentat de Grand Bassam auraient été libérés par le Mali en échange de 4 otages. De quelle information disposez-vous à ce sujet, tout d'abord ? Et plus généralement, est-ce qu'il n'est pas temps de négocier avec les djihadistes plutôt que de les combattre?
Non, vous savez, le Mali a pris une décision souveraine. Je n'ai pas d'observation ni de commentaire. Et je considère que nous n'avons pas ce problème ici, donc je ne ferai pas de commentaire non plus.
Et vous avez des
Mais
craintes?
Nous avons en tout cas bien bouclé la frontière nord, que ce soit par rapport au Burkina comme par rapport au Mali, après l'attaque de Kafalo, et nous sommes confiants que la zone a été bien nettoyée.
Et puis dans l'actualité, il y a aussi les vives tensions entre plusieurs pays musulmans et la France. C'est à la suite, comme vous le savez, de l'assassinat en France d'un professeur.
Ah oui, c'est un acte affreux.
Qui avait montré à ses élèves
abominable,
des caricatures du prophète Mahomet, un assassinat.
C'est un acte affreux.
Affreux
inqualifiable,
et abominable.
Inqualifiable, monstrueux.
Qui a bouleversé, comme vous le savez, monde entier. Alors Emmanuel Macron a réaffirmé
que
la
France... Je ne voudrais pas rentrer dans la politique française, je vous en prie. Emmanuel Macron est un ami, mais il est le président de la République française et je ne voudrais pas commenter sur la politique française, comme tout à l'heure, je n'ai pas voulu commenter sur la politique du Mali.
Simplement, ça a provoqué une polémique avec le président
mais
de la Turquie.
Ça, je considère que je suis confiant que le président Macron réglera ce problème avec le président Erdogan.
Donc vous ne comprenez pas.
Je les connais
pas,
tous les deux.
C'est ça. Donc vous ne comprenez pas l'appel.
Je considère que cet acte est monstrueux, inqualifiable, est vraiment détestable. Le musulman que je suis ne peut pas accepter que cela puisse se produire.
Et les appels au boycott des produits français, vous réagissez
comment ? Je ne me prononcerai pas sur ça. Ce n'est pas, c'est pas, la Côte d'Ivoire ne boycotte pas les produits français, c'est ça le plus important. Je suis président de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas juger les décisions dans d'autres pays.
Merci.
Y compris la France elle-même, d'ailleurs.
En tout cas...
Mais maintenant, il faut qu'on continue, là. Moi, je n'ai pas fini. Mais on ne veut pas parler d'avenir.
Si vous,
mais l'avenir de ce pays, quand même...
C'est pour ça qu'on vous a interrogé sur votre bilan et pour vous demander
mon bilan, quand même, est exceptionnel. Je pense qu'on doit le dire. Comment ce pays qui était quand même... la situation était désastreuse en sortant du Golfe. Et en moins de 10 ans, nous avons rétabli les infrastructures, nous avons assaini la situation des finances publiques. Pendant 9 années, nous avons eu des programmes avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, avec des critères de performance tous les 3 mois, et nous les avons respectés pendant 9 années de suite. Nous avons doublé le PIB par habitant. Nous avons donné 80% du taux d'électrification qui était aux alentours de 35-40%. Nous sommes à 80% aujourd'hui. Tous les villages de plus de 500 habitants auront de l'électricité à la fin de cette année. Nous avons doublé la disponibilité d'eau potable. Nous avons construit 22 ponts au lieu des 3 ponts qui existaient, et ainsi de suite. Et c'est ce que nous allons continuer. Mais nous allons continuer cela dans la stabilité politique, dans la sécurité nationale, la sécurité régionale, et nous ferons en sorte que la Côte d'Ivoire continue de rayonner, d'être un pays qui a réussi. Et les Ivoiriens en sont très fiers, et moi j'en suis très fier. Et je considère qu'il y a une génération qui a fait son temps, y compris moi-même, et notre devoir c'est de travailler à transférer le pouvoir à une nouvelle génération, une plus jeune génération. Et je suis dans l'obligation d'avoir accepté d'être candidat pour ces élections de 2020. Mon objectif, c'est de travailler à consolider cette nouvelle génération avec des gens qui viendront de partout. J'espère qu'ils viendront de l'extérieur, qui amèneront leur expérience dans tous les domaines, que ce soit dans les institutions internationales, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les institutions sous-régionales, parce que la Côte d'Ivoire doit essayer de développer la culture du mérite, la culture donc de la compétence, de l'ouverture. Et d'ailleurs, c'est déjà un pays ouvert que le président Oufouette nous a laissé. Nous avons quand même 25% de non-ivoiriens sur le sol de Côte d'Ivoire. Et depuis que je suis président, ils vivent en paix. Il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de problème. Ils ont quasiment les mêmes droits que les autres. Et c'est ce dont je rêve, un pays pluriel, un pays hospitalier, un pays ouvert, un pays qui va démontrer qu'en Afrique, il y a des pays qui peuvent s'en sortir. Et la Côte d'Ivoire le fait aujourd'hui et nous fera encore beaucoup mieux sur l'avenir.
Merci, Monsieur le Président, voilà, de nous avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup.
Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos 2 chaînes, Radio France Internationale et France 24.
Merci, merci à tous les 2. Merci bien.
Merci beaucoup.